Chapitre 6. Mais, qui reconnaîtrait la cité des livres? Il y a maintenant des fleurs sur tous les meubles. Jeanne a raison, ces roses sont fort belles dans ce vase de faïence bleue. Elle accompagne chaque jour Thérèse au marché, sous prétexte d'aider la vieille servante à faire les provisions, mais elle ne rapporte que des fleurs. Les fleurs sont en vérité de charmantes créatures. Il faudra bien un jour que je suive mon dessein et que je les étudie chez elle, à la campagne, avec tout l'esprit de méthode dont je suis capable. Et que faire ici? Pourquoi achever de brûler mes yeux sur de vieux parchemins qui ne me disent plus rien qui vaille? Je les déchiffrais jadis, ces anciens textes, avec une ardeur magnanime. Qu'espérais-je donc y trouver alors? La date d'une fondation pieuse, le nom de quelque moine imagier ou copiste, le prix d'un pain, d'un bœuf ou d'un champ, une disposition administrative ou judiciaire, cela et quelque chose encore, quelque chose de mystérieux, de vague et de sublime qui échauffait mon enthousiasme. Mais j'ai cherché 60 ans sans trouver ce quelque chose. Ce qui valait mieux que moi, les maîtres, les grands, les Fauriel, les Thierry, qui ont trouvé tant de choses, sont morts à la tâche sans avoir trouvé non plus ce quelque chose qui, n'ayant pas de corps, n'a pas de nom, et sans lequel pourtant aucune œuvre de l'esprit ne serait entreprise sur cette terre. Maintenant que je ne cherche que ce que je puis raisonnablement trouver, je ne trouve plus rien, rien du tout. Et il est probable que je m'achèverai jamais l'histoire des abbés de Saint-Germain-des-Prés. Devinez, tuteur, ce que j'apporte dans mon mouchoir. Oh, il y a toute apparence que ce sont des fleurs, Jeanne. Oh non, ce ne sont pas des fleurs, regardez. Je regarde et je vois une petite tête grise qui sort du mouchoir. C'est celle d'un petit chat gris. Le mouchoir s'ouvre, l'animal saute sur le tapis, se secoue, redresse une oreille, puis l'autre et examine prudemment le lieu et les personnes. Son panier au bras, Thérèse, hors d'haleine, se présente à point à cet examen qui ne lui est pas extraordinairement favorable, car le jeune chat s'éloigne d'elle avec lenteur, sans toutefois tomber dans mes jambes, ni s'approcher de Jeanne, qui lui dit des douceurs avec une grande volubilité. Thérèse, dont le défaut n'est pas de dissimuler, reproche véhémentement à mademoiselle d'apporter dans la maison un chat qu'elle ne connaît pas. Jeanne, pour se justifier, raconte l'aventure. Passant avec Thérèse devant la boutique d'un pharmacien, elle voit un apprenti qui envoie d'un grand coup de pied un chat dans la rue. Le chat, surpris et incommodé, se demande s'il restera dans la rue malgré les passants qui le bousculent et l'effraient, ou s'il rentrera dans la boutique au risque d'en sortir de nouveau au bout d'une botte. Jeanne trouve que sa position est critique et comprend qu'il hésite. Il a l'air stupide. Elle pense que c'est l'indécision qui lui donne cet air-là. Elle le prend dans ses bras. Et n'étant à son aise ni dehors ni dedans, il consent à rester en l'air. Tandis qu'elle achève de le rassurer par des caresses, elle dit audacieusement à l'apprenti pharmacien « Mais si cette bête vous plaît, il faut pas la battre, il faut me la donner. »« Oh, prenez-la !» répond l'apprenti pharmacien. « Voilà !» ajoute Jeanne en matière de conclusion. Et elle reprend une voix flûtée pour promettre aux minettes toutes sortes de douceurs. « Il est bien maigre, dis-je, en examinant ce pitoyable animal. De plus, oh, il est bien laid. » Jeanne ne le trouve pas laid, mais elle reconnaît qu'il a l'air plus stupide que jamais. Ce n'est pas cette fois l'indécision, c'est la surprise qui, selon elle, imprime ce fâcheux caractère à sa physionomie. Elle veut que nous nous mettions à sa place. Nous conviendrons alors qu'il lui est impossible de rien comprendre à son aventure. Nous éclatons de rire au nez de la pauvre bête qui garde un sérieux comique. Jeanne veut le prendre, mais il se cache sous la table et n'en sort pas même à la vue d'une soucoupe pleine de lait. Nous tournons le dos. La soucoupe est vide. Jeanne, dis-je, votre protégé a une triste mine. Il est d'un naturel sournois. Je souhaite qu'il ne commette pas dans la cité des livres des méfaits qui nous obligent à le renvoyer à sa pharmacie. En attendant, il faut lui donner un nom. Je vous propose de le nommer Don Gris de Gouttière, mais cela est peut-être un peu long. Pilule, drogue ou ricin serait plus bref et aurait l'avantage de rappeler sa première condition. Qu'en dites-vous ? « Pilule irait bien, » me répondit Jeanne, « mais il serait pas généreux de lui donner un nom qui lui rappelle sans cesse les malheurs dont nous l'avons tiré. Ce serait lui faire payer notre hospitalité. Soyons plus gracieux, donnons-lui un joli nom dans l'espoir qu'il le mérite. Voyez comme il nous regarde. Il voit qu'on s'occupe de lui. Il est déjà moins bête depuis qu'il n'est plus malheureux. Je plaisante pas. Le malheur abétit, oh, je le sais bien. Eh bien, Jeanne, si vous le voulez, nous appellerons votre protégé Hannibal. La convenance de ce nom ne vous frappe pas tout d'abord. Mais l'Angora, qui le précéda dans la cité des livres, et à qui j'avais l'habitude de faire mes confidences, car il était sage et discrète personne, se nommait Hamilcar. Il est naturel que ce nom engendre l'autre et qu'Hannibal succède à Hamilcar. Nous tombâmes d'accord sur ce point. Hannibal ! S'écria Jeanne, venez ici ! Hannibal, épouvanté par la sonnerie étrange de son propre nom, s'alla tapir sous une bibliothèque dans un espace si petit qu'un rat n'y eût pas tenu. Voilà un grand nom bien porté. J'étais ce jour-là d'humeur à travailler, et j'avais trempé dans l'encrier le bec de ma plume, quand j'entendis qu'on sonnait. Si jamais quelques oisifs lisaient ces feuillets barbouillés par un vieillard sans imagination, il rirait bien de ces coups de sonnette qui retentissent à tout moment dans le cours de mon récit, sans jamais introduire un personnage nouveau ni préparer une scène inattendue. Au rebours, le théâtre de M. Scribe nous reçoit porte qu'à bon escient et pour le plus grand plaisir des dames et des demoiselles. C'est de l'art, cela. Je me serais pendu plutôt que d'écrire à vaudeville, non par mépris de la vie, mais à cause que je ne saurais rien inventer de divertissant. Inventer, oh, il faut pour cela avoir reçu l'influence secrète. Ce don me serait funeste. Voyez-vous que dans mon histoire de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, j'invente quelques moignillons ? Que diraient les jeunes érudits ? Quel scandale à l'école ! Quant à l'Institut, ils ne diraient rien et n'en penseraient pas davantage. Mes collègues, s'ils écrivent encore un peu, ne lisent plus du tout. Ils sont de l'avis de Pardy qui disait « Une paisible indifférence est la plus sage des vertus ». Être le moins possible pour être le mieux possible, c'est à quoi s'efforcent ces bouddhistes sans le savoir. Si les plus sages sagesse, j'irai le dire à Rome, tout cela à propos du coup de sonnette de M. Gélis. Ce jeune homme a changé du tout au tout ses façons d'être avec Jeanne. Il est maintenant aussi grave qu'il était léger, aussi taciturne qu'il était bavard. Et Jeanne suit cet exemple. Nous sommes dans la phase de la passion contenue, car, tout vieux que je suis, je ne m'y trompe pas. Ces deux enfants s'aiment avec force et durée. Jeanne l'évite maintenant, elle se cache dans sa chambre quand il entre dans la bibliothèque. Mais qu'elle le retrouve bien quand elle est seule. Seule, elle lui parle chaque soir dans la musique qu'elle joue sur le piano, avec un accent rapide et vibrant, qui est l'expression nouvelle de son âme nouvelle. Eh bien, pourquoi ne pas le dire ? Pourquoi ne pas avouer ma faiblesse ? Mon égoïsme, si je ne le cachais à moi-même, en deviendrait-il moins blâmable? Je le dirai donc, oui, j'attendais autre chose. Oui, je comptais la garder pour moi seul, comme mon enfant, comme ma fille. Non, toujours, non, pas même longtemps, mais quelques années encore. Je suis si vieux, ne pourrait-elle attendre? Et qui sait, la goutte aidant, je n'aurais peut-être pas trop abusé de sa patience. C'était mon désir, c'était mon espoir. Je comptais sans elle, mais je comptais sans ce jeune étourdi. Mais si le compte était mauvais, le mécompte n'en est pas moins cruel. Et puis, il me semble que tu te condamnes bien légèrement, mon ami Sylvestre Bonnard. Si tu voulais garder cette jeune fille quelques années encore, c'était dans son intérêt autant que dans le tien. Mais elle a beaucoup à apprendre, et tu n'es pas un maître à dédaigner. Quand ce tabellion mouche qui s'est livré depuis à une coquinerie si opportune te fit l'honneur d'une visite, tu lui exposas ton système d'éducation avec la chaleur d'une âme bien éprise. Tout ton zèle tendait à l'appliquer, ce système. Jeanne est une ingrate et Gélis un séducteur. Mais enfin, s'il ne le met pas à la porte, ce qui serait d'un goût et d'un sentiment détestable, il faut bien que je le reçoive. Il y a assez longtemps qu'il attend dans mon petit salon, en face des vases de Sèvres qui me furent gracieusement donnés par le roi Louis-Philippe. Les moissonneurs et les pêcheurs de Léopold Robert sont peints sur ces vases de porcelaine que Gélis déclare affreux aux applaudissements de Jeanne qu'il a ensorcelés. Mon cher enfant, excusez-moi de ne vous avoir pas reçu tout de suite, j'achevais un travail. Oh, je dis vrai, la méditation est un travail, mais Gélis ne l'entend pas ainsi. Il croit qu'il s'agit d'archéologie, et rassuré sur la santé de mademoiselle Jeanne par un « fort bien » très sec dans lequel se révèle mon autorité morale de tuteur, nous voilà causant tous deux des sciences historiques. Nous entrons dans les généralités. Les généralités sont d'une grande ressource. J'essaie d'inculquer à Gélis un peu de respect pour la génération d'historiens à laquelle j'appartiens. Je lui dis, l'histoire, qui était un art et qui comportait toutes les fantaisies de l'imagination, est devenue de notre temps une science à laquelle il faut procéder avec une rigoureuse méthode. Gélis me demande la permission de n'être pas de mon avis. Il me déclare qu'il ne croit pas que l'histoire soit ni ne devienne jamais une science. Et d'abord, me dit-il, qu'est-ce que l'histoire? La représentation écrite des événements passés. Mais qu'est-ce qu'un événement? Est-ce un fait quelconque? Non pas. Me dites-vous, c'est un fait notable. Or, comment l'historien juge-t-il qu'un fait est notable ou non? Il en juge arbitrairement, selon son goût et son caprice, à son idée, en artiste enfin, car les faits ne se divisent pas de leur propre nature en faits historiques et en faits non historiques. Mais un fait est quelque chose d'extrêmement complexe. L'historien représenta-t-il les faits dans leur complexité? Non, cela est impossible. Il les représentera dénués de la plupart des particularités qui les constituent, par conséquent tronqués, mutilés et différents de ce qu'ils furent. Quant au rapport des faits entre eux, n'en parlons pas. Si un fait dit historique est un homme mené, ce qui est possible par un ou plusieurs faits non historiques, et par cela même inconnus, comment l'historien pourra-t-il marquer la relation de ces faits? Et je suppose, dans tout ce que je dis là, monsieur Bonnard, que l'historien a sous les yeux des témoignages certains, tandis qu'en réalité, il n'accorde sa confiance à tel ou tel témoin que par des raisons de sentiment. L'histoire n'est pas une science, c'est un art, et on n'y réussit que par l'imagination. Monsieur Gélis me rappelle en ce moment certains jeunes fous que j'entendis un certain jour discourir à tort et à travers dans le jardin du Luxembourg, sous la statue de Marguerite de Navarre. Mais, à un tournant de la conversation, nous nous rencontrons nez à nez avec Walter Scott, à qui mon jeune dédaigneux trouve un air rococo, troubadour et dessus de pendule. Ce sont ses propres expressions. Mais, dis-je en m'échauffant pour la défense du père magnifique de Lucie et de la jolie fille de Perthes, tout le passé vit dans ces admirables romans. C'est de l'histoire, c'est de l'épopée. Bon, c'est de la friperie, me répond Gélis. Et croiriez-vous que cet enfant insensé m'affirme qu'on ne peut, si savant qu'on soit, se figurer précisément comment les hommes vivaient il y a 5 ou 10 siècles, puisque ce n'est qu'à grand-peine qu'on se les figure à peu près comme ils étaient il y a 10 ou 15 ans. Pour lui, le poème historique, le roman historique, la peinture d'histoire sont des genres abominablement faux. Dans tous les arts, ajoute-t-il, l'artiste ne peint que son âme. Son œuvre, quel qu'en soit le costume, et sa contemporaine par l'esprit. Qu'admirons-nous dans la divine comédie, sinon la grande âme de Dante? Et les marbres de Michel-Ange, que nous représentent-ils d'extraordinaire, sinon Michel-Ange lui-même? Artiste ordonne sa propre vie à ses créations, ou bien l'on taille des marionnettes, et l'on habille des poupées. Que de paradoxes et d'irrévérences! Mais les audaces ne me déplaisent pas dans un jeune homme. Gélis se lève et se rassied. Je sais bien ce qui l'occupe et qui l'attend. Le voici qui me parle des 1500 francs qu'il gagne, auxquels il convient d'ajouter une petite rente de 2000 francs qu'il tient d'un héritage. Je ne suis pas dupe de ses confidences. Je sais bien qu'il me fait ses petits comptes afin que je sache qu'il est un homme établi, rangé, casé, renté, pour tout dire, et bon à marier. C'est QFD, comme disent les géomètres. Il s'est levé et rassis 20 fois. Il se lève une 21e fois, et comme il n'a pas vu Jeanne, il sort désolé. Sitôt qu'il est parti, Jeanne entre dans la cité des livres sous prétexte de surveiller Hannibal. Elle est désolée et c'est d'une voix dolente qu'elle appelle mon son protégé pour lui donner du lait. Vois ce visage attristé, Bonnard. Tyran, contemple ton ouvrage. Tu les as tenus séparés, mais ils ont même visage. Et tu vois l'expression pareille de leurs traits. Qu'ils sont malgré toi unis de pensée. Cassandre, sois heureux. Bartolo, réjouis-toi. Ce que c'est que d'être tuteur. La voyez-vous, les deux genoux sur le tapis et la tête d'animal dans les mains? Oui, caresse ce stupide animal, plains-le, gémis sur lui. On sait, petite perfide, où vont vos soupirs et ce qui cause vos plaintes. Cela fait pourtant un joli tableau que je contemple longtemps. Puis, ayant jeté un regard sur ma bibliothèque, Jeanne, dis-je, tous ces livres m'ennuient. Nous allons les vendre. 20 septembre. C'en est fait, ils sont fiancés. Gélis, qui est orphelin comme Jeanne est orpheline, m'a fait faire sa demande par un de ses professeurs, mien collègue, hautement estimé pour sa science et son caractère. Mais quel messager d'amour, juste ciel! Un ours, oh non pas un ours des Pyrénées, mais ours de cabinet, et cette seconde variété est beaucoup plus féroce que la première. À tort ou à raison? À tort, selon moi. Gélis ne tient pas à la dot. Il prend votre pupille avec sa chemise. Dites oui et l'affaire est faite. Dépêchez-vous, je voudrais vous montrer 2 ou 3 jetons de Lorraine assez curieux et que vous ne connaissez pas, j'en suis sûr. C'est littéralement ce qu'il m'a dit. Je lui répondis que je consulterais Jeanne et je n'eus pas le moindre plaisir à lui déclarer que ma pupille avait une dot. La dot, la voilà. C'est ma bibliothèque. Henri et Jeanne sont à 1 000 lieues de s'en douter, et c'est un fait qu'on me croit généralement plus riche que je ne suis. J'ai la mine d'un vieil avare. Voilà certainement une mine bien menteuse, mais qui m'a valu beaucoup de considération. Il n'est sorte de personne que le monde respecte à l'égard d'un riche crasseux. J'ai consulté Jeanne, mais avais-je besoin d'écouter sa réponse pour l'entendre? C'en est fait, ils sont fiancés. Il ne va ni à mon caractère, ni à ma figure, d'épier ces deux jeunes gens pour noter ensuite leurs paroles et leurs gestes. Noli me tangere. C'est le mot des belles amours. Je sais mon devoir. Il est de respecter le secret de cette âme innocente sur laquelle je veille. Qu'ils s'aiment, ces enfants. Rien de leurs longs épanchements, rien de leurs candides imprudences ne sera retenu sur ce cahier par le vieux tuteur dont l'autorité fut douce et dura si peu. D'ailleurs, je ne me croise pas les bras, et s'ils ont leurs affaires, j'ai les miennes. Je dresse moi-même le catalogue de ma bibliothèque en vue d'une vente aux enchères. C'est une tâche qui m'afflige et m'amuse à la fois. Je la fais durer peut-être un peu plus longtemps que de raison, et je feuillette ces exemplaires si familiers à ma pensée, à ma main, à mes yeux, au-delà du nécessaire et de l'utile. Mais c'est un adieu. Et il fut de tout temps dans la nature de l'homme de prolonger les adieux. Ce gros volume qui m'a tant servi depuis 30 ans, puis-je le quitter sans les égards qu'on doit à un bon serviteur? Et celui-ci qui m'a réconforté par sa sainte doctrine, ne dois-je point le saluer une dernière fois comme un maître? Mais chaque fois que je rencontre un volume qui m'a induit en erreur, qui m'a affligé par ses fausses dates, lacunes, mensonges et autres pestes de l'archéologue. « Va !» lui dis-je avec une joie amère, « va !» Imposteur, traître, faux témoin, fuis loin de moi, va des rétros, et puisses-tu indûment couvert d'or, grâce à ta réputation usurpée et à ton bel habit de Marocain, entrer dans la vitrine de quelque agent de change bibliomane, que tu ne pourras séduire comme tu m'as séduit, puisqu'il ne te lira jamais. Je mettais à part, pour les garder longtemps et toujours, les livres qui m'ont été donnés en souvenir. En plaçant dans cette rangée le manuscrit de la Légende dorée, je pensais le baiser en souvenir de Madame Trépoff, qui resta reconnaissante malgré son élévation et ses richesses, et qui, pour se montrer mon obligé, devint ma bienfaitrice. J'avais donc une réserve. C'est alors que je connus le crime. Les tentations me venaient pendant la nuit. À l'aube, elles étaient irrésistibles. Alors, tandis que tout dormait encore dans la maison, je me levais et je sortais furtivement de ma chambre. Puissance de l'ombre, fantôme de la nuit, si, vous attardant chez moi après le chant du coq, vous me vîtes alors me glisser sur la pointe des pieds dans la cité des livres, vous ne vous êtes récria certainement pas comme Madame Trépoff à Naples. Ce vieillard a un bon dos. J'entrais. Hannibal, la queue toute droite, se frottait à mes jambes en ronronnant. Je saisissais un volume sur sa tablette, quelque vénérable gothique ou un noble poète de la Renaissance, le joyau, le trésor dont j'avais rêvé toute la nuit. Je l'emportais et je le coulais au plus profond de l'armoire des ouvrages réservés, qui devenait pleine à en crever. C'était horrible à dire, je volais la dot de Jeanne. Et quand le crime était consommé, Je me remettais à cataloguer vigoureusement jusqu'à ce que Jeanne vînt me consulter sur quelques détails de toilette ou de trousseau. Je ne comprenais jamais bien de quoi il s'agissait, faute de connaître le vocabulaire actuel de la couture et de la lingerie. Ah, si une fiancée du XVIe siècle venait par miracle me parler chiffon à la bonne heure, je comprendrais son langage. Mais Jeanne n'est pas de bon temps, et je la renvoie à Madame de Gabry, qui en ce moment lui sert de mère. La nuit vient, la nuit est venue. Accoudés à la fenêtre, nous regardons le vaste étendu sombre, criblé de pointes de lumière. Jeanne, penchée sur la barre d'appui, tient son front dans sa main et semble attristée. Je l'observe et je me dis en moi-même, tous les changements, même les plus souhaités, ont leur mélancolie, car ce que nous quittons, c'est une partie de nous-mêmes. Il faut mourir à une vie pour entrer dans une autre. Comme répondant à ma pensée, la jeune fille me dit, mon tuteur, je suis bien heureuse. Et pourtant j'ai envie de pleurer. Dernière page, 21 août 1869. Page 87e. Encore une vingtaine de lignes et mon livre sur les insectes et les fleurs sera terminé. Page 87e et dernière. Comme on vient de le voir, les visites des insectes ont une grande importance pour les plantes. Ils se chargent en effet de transporter au pistil le pollen des étamines. Il semble que la fleur soit disposée et parée dans l'attente de cette visite nuptiale. Je crois avoir démontré que le nectar de la fleur distille une liqueur sucrée qui attire l'insecte et l'oblige à opérer inconsciemment la fécondation directe ou croisée. Ce dernier mode est le plus fréquent. J'ai fait voir que les fleurs sont colorées et parfumées de manière à attirer les insectes et construites intérieurement de sorte à offrir à ses visiteurs un passage tel qu'en pénétrant dans la corolle, ils déposent sur le stigmate le pollen dont ils sont chargés. Springle, mon maître vénéré, disait à propos du duvet qui tapisse la corolle du géranium des bois, le sage auteur de la nature n'a pas voulu créer un seul poil inutile. Mais je dis à mon tour, si le lys des champs dont parle l'Évangile est plus richement vêtu que le roi Salomon, son manteau de pourpre est un manteau de noces, et cette riche parure est une nécessité de sa perpétuelle existence. Broll, le 21 août 1869. Broll. Ma maison est la dernière qu'on trouve dans la rue du village en allant à la forêt. C'est une maison à pignons dont le toit d'ardoise s'irise au soleil comme une gorge de pigeon. La girouette qui s'élève sur ce toit me vaut plus de considération dans le pays que tous mes travaux d'histoire et de philologie. Il n'y a pas un marmot qui ne connaisse la girouette de M. Bonnard. Elle est rouillée et grince aigrement au vent. Parfois, elle refuse tout service, comme Thérèse qui se laisse aider en grognant par une jeune paysanne. Oh, la maison n'est pas grande, mais j'y vis à l'aise. Ma chambre a deux fenêtres et reçoit le premier soleil. Au-dessus est la chambre des enfants. Jeanne et Henri viennent deux fois l'an. Le petit Sylvestre y avait son berceau. C'était un joli enfant, mais il était bien pâle. Quand il jouait sur l'herbe, sa mère le suivait d'un regard inquiet et à tout moment arrêtait son aiguille pour le reprendre sur ses genoux. Le pauvre petit ne voulait pas s'endormir. Il disait que quand il dormait, il allait loin, bien loin, où c'était noir et où il voyait des choses qui lui faisaient peur et qu'il ne voulait plus voir. Alors, sa mère l'appelait et je m'asseyais près de son berceau. Il prenait un de mes doigts dans sa petite main chaude et sèche et il me disait « Parrain, il faut que tu me contes une histoire. » Alors je lui faisais des contes de toutes sortes qu'il écoutait gravement. Tous l'intéressaient, mais il y en avait un surtout dont sa petite âme était émerveillée, c'était l'oiseau bleu. Quand j'avais fini, il me disait « Encore, encore !» Je recommençais, sa petite tête pâle et veinée tombait sur l'oreiller. Le médecin répondait à toutes nos questions. « Oh, il n'a rien d'extraordinaire !»« Non, le petit Sylvestre n'avait rien d'extraordinaire. » Un soir de l'an dernier, son père m'appela. « Venez, me dit-il, le petit est plus mal. » J'approchais du berceau près duquel la mère se tenait immobile, attachée par toutes les puissances de son âme. Le petit Sylvestre tourna lentement vers moi ses prunelles qui montaient sous ses paupières et ne voulait plus redescendre. « Parrain, me dit-il, il faut plus me dire des histoires. » Non, il ne fallait plus lui dire des histoires. Pauvre Jeanne, pauvre mère, je suis trop vieux pour rester bien sensible, mais en vérité c'est un mystère douloureux que la mort d'un enfant. Aujourd'hui le père et la mère sont revenus pour 6 semaines sous le toit du vieillard. Les voici qui reviennent de la forêt en se donnant le bras. Jeanne est serrée dans son châle noir et Henri porte un crêpe à son chapeau de paille. Mais ils sont tous deux brillants de jeunesse et ils se sourient doucement l'un à l'autre. Ils sourient à la terre qui les porte, à l'air qui les baigne, à la lumière que chacun d'eux voit briller dans les yeux de l'autre. Je leur fais signe de ma fenêtre avec mon mouchoir. Et il sourit à ma vieillesse. Jeanne monte lestement l'escalier, m'embrasse et murmure à mon oreille quelques mots que je devine plutôt que je ne les entends. Et je lui réponds « Dieu vous bénisse, Jeanne, vous et votre mari, dans votre postérité la plus reculée. Et nunc dimittis eum tuum domine. » Et maintenant, tu quittes ton esclave, ô Seigneur. Fin.